Tropic FM.
Bonjour, c'est le Mag sur Tropic FM. Ben aujourd'hui, moi j'ai l'honneur de recevoir au téléphone l'artiste de la semaine. Sur votre antenne, l'artiste périgourdine Francesca Solville. Francesca, bonjour.
Bonjour.
Alors, j'ai parlé d'artiste périgourdine à votre propos, puisque vous êtes né à Périgueux, préfecture de la Dordogne, très beau département à tous les points de vue, y compris culinaire, viticole et vinicole. Vous gardez quelle relation avec votre région d'origine ?
Aucune. Ah. Aucune, parce que c'est par hasard que je suis née là, disons. Normalement, mon père, il était du Lot-et-Garonne, de Marmande. Ma mère était florentine. Et puis, c'est par hasard qu'ils étaient là, à Périgueux. Voilà.
D'accord.
Alors, je suis née tranquillement là-bas. C'était très bien. J'y suis retournée chanter. Et j'adore la... Enfin, j'avais une grand-mère du Sud-Ouest qui savait faire le foie gras comme il faut. Et avec qui on a fait plein de bombance,
ouais. Alors, je vous ai présenté comme artiste. Alors, j'aurais pu dire chanteuse ou interprète. Quel mot vous conviendrait le mieux, finalement ?
Interprète. Interprète, puisque je chante les chansons que des autres, qu'on m'écrit, des bons auteurs. Et j'ai toujours eu la chance de rencontrer, depuis la première fois Léo Ferré, que voilà, maintenant j'en ai des jeunes. J'avais le Prest qui malheureusement est parti, et je continue à... J'aime beaucoup la jeunesse, disons, et sans problème, puisque, bon, vu mon âge, c'est vraiment un intérêt artistique.
Ouais.
Voilà, alors... Je suis interprète, je suis une artiste, ça c'est sûr, parce que bon, je sais jouer du piano aussi, mais c'est pas simplement jouer. On peut être artiste sans rien faire d'artistique. C'est simplement de sentir et avoir les émotions qu'il faut. Le public est souvent artistique, même s'il le sait pas. Voilà. Moi j'ai vu ça quand j'allais chanter dans les usines, ce qu'on a fermé là, les mines de charbon, tout ça, et des gens qui étaient absolument pas éduqués, disons, qui étaient pas allés jusqu'au bac ou même jusqu'à je sais pas quoi, et qui étaient très étonnés d'avoir compris Aragon et Louis Aragon et Éluard et tout ça, et c'est ça, c'est le grand bonheur de ma vie, c'est d'avoir transmis l'émotion des poètes. Ouais. Voilà.
Vous n'avez jamais écrit pour vous ?
Ah non. Non. J'ai mis de musique sur des vieux copains autrefois quand on était dans les cabarets, mais ah non, je respecte trop. Je ne suis pas. C'est-à-dire, voilà, j'ai eu un frein. J'adore tellement les mots, les phrases, les beaux textes que je me sens pas capable de faire ça. Quoi.
Parce que vous avez quand même fait des études de lettres, et votre passion pour la littérature française aurait pu vous faire de vous non seulement une interprète, mais aussi une auteure, non ?
Je ne sais pas, plus on connaît les bons, plus on a peur de pas être à la hauteur. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis auteurs qui ont jamais fait la fac ou Sorbonne ou quoi que ce soit. Et ça leur vient, parce que c'est comme ça, quoi. Chacun a une porte qui s'ouvre dans sa vie pour faire la chose qui va lui plaire et qu'il est capable de faire, quoi.
Ouais. Alors, parallèlement à vos études, vous avez appris le chant classique et vous êtes même engagé dans les chœurs de Radio France. Alors, cet amour pour le chant a toujours été en vous ?
Oui, c'est-à-dire que c'était ma mère aussi qui jouait du piano et qui m'a toujours... j'ai pris des tas de leçons de piano et de solfège. Je sais parfaitement le solfège, ce qui fait que quand j'étais à la Sorbonne... J'ai pu vivre parce que j'étais en même temps engagée, ça s'appelait l'ORTF, je sais plus comment ça s'appelait, mais bon, on chantait de tout et n'importe quoi, mais j'étais contralto, j'avais un salaire et tout ça, quoi. Mmh. Et puis, je comptais chanter du Schubert, du Schumann, Monteverdi et tout ça, j'adorais ça. Et puis, c'est par hasard que j'ai rencontré la chanson française, grâce à Léo Ferré. Hein, voilà.
Alors c'est le déclic qui vous a fait quitter le chant lyrique pour la chanson et l'interprétation des autres en particulier. Peut-on parler de déclic ou de rencontre ?
C'est une rencontre qui m'a fait le déclic. par hasard, il y avait une amie qui m'a dit « Ah ben, Voilà, j'ai un copain musicien, elle était dans une maison de disques. J'ai un copain musicien qui a fait deux textes, qui a mis en musique deux textes d'Aragon. C'était en 59, je m'en souviendrai toute ma vie. Et est-ce que tu pourrais apprendre... Oh, je suis allée chez Philippe Gérard. Et Philippe Gérard, j'ai appris en 48 heures, j'ai appris deux magnifiques chansons d'Aragon. Et puis je me suis retrouvée sur scène avec Léo Ferré, qui présentait ses 10 chansons d'Aragon. Il les avait pas enregistrées. C'était la première fois qu'il les chantait. Et quand j'ai entendu ça, et que j'ai vu le public m'a transporté parce que c'était pas du tout le même public que le classique. Moi, j'étais dans le chant classique, j'avais un professeur, c'était une femme extraordinaire qui fréquentait beaucoup les princesses et les, etc. Moi, j'étais reçue chez des princesses, qui aimait beaucoup les leaders de Schubert, Schumann, les trucs de concert, disons, et moi aussi. Mais elles étaient tellement bien élevées, bien éduquées, c'était pas, elles ont été élevées dans cet amour du classique que quand je me suis retrouvée à la mutualité où tout le monde, c'était des ouvriers, il y avait la CGT, il y avait le Parti communiste, il y avait tout ça, de voir comment cette salle réagissait, ça n'avait rien à voir avec le public du chant classique qui était très raffiné et très intelligent, etc. Tandis que là, j'ai eu l'impression qu'on pouvait amener des choses extraordinaires et qu'on pouvait partager avec des gens qui étaient moins gâtés par la vie, disons, tout simplement. Alors j'ai demandé, Léo Ferré, il m'a entendu chanter mes deux textes d'Aragon, et moi je lui ai simplement dit, monsieur, je le connaissais pas du tout, est-ce que je pourrais avoir vos chansons? Normalement il aurait jamais dit, et il m'a dit, tu viens chez moi demain matin, à 10h, boulevard Pershing, je m'en souviendrai toute ma vie, parce que j'y suis allée, il m'a donné ses chansons, qui n'était même pas édité, qu'il avait écrit à la main et qu'il avait fait photocopier parce que c'était en 59. En 59, il n'y avait pas des photocopieuses partout, etc. À l'époque, il fallait sortir de chez soi et aller faire photocopier dans les magasins. Il est allé me faire photocopier toutes ces 10 chansons. Et bon, alors, j'avais un copain qui était pianiste classique et qui m'a accompagné à une audition à la Colombe. Et j'ai été prise immédiatement à cause de mon répertoire, disons. Et je suis tombée avec les Christine Sèvres, les Pia Colombo, les Bobby Lapointe, les Jean Ferral. Et bon, ça a été une vie magnifique.
Ouais, alors c'était aussi la belle époque des cabarets dits Rive Gauche de Paris, où l'on retrouvait tous les artistes incontournables de l'époque, incontournables et hautement recommandables. Loin de ce qui pouvait déjà passer à la radio et à la télé, vous y avez vécu des moments formidables. Alors, racontez-nous un petit peu cette période très riche de la chanson française.
Ah ben, ce qui était magnifique, c'est qu'il y avait beaucoup de lieux où on pouvait aller chanter, et surtout que dans chaque cabaret, comme la Contrescarpe ou l'Écluse, etc., on n'était pas tout seul, on faisait pas... Alors, on était jeunes, et on faisait 3 cabarets par soir pour pouvoir manger, quoi, tout simplement, et on se retrouvait dans les bistrots à côté, on s'aimait beaucoup... Et on apprenait à chanter, parce qu'on ne chantait que 5 ou 6 chansons par cabaret, puisqu'on était, dans chaque cabaret, il y avait au moins 4 ou 5 artistes dans la soirée. Donc, ça, c'est pas comme maintenant, où on leur demande de faire immédiatement 3 quarts d'heure ou 1 heure, etc. Là, on chantait, on se disait, tiens, ce soir, je chante ça, 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 là, à la Cluse, là, je vais chanter à la Contrescarpe, ça, et puis après, on apprenait comment... On pouvait faire passer nos chansons au public, au plus simple et au plus fort, voilà. Et c'était une école extraordinaire. Ouais. Ça n'a rien à voir avec les cours de chant. Voilà. Alors, je veux dire, on s'aimait tous, il n'y avait pas du tout il n'y avait pas de compétition.
Ouais. Pas de jalousie?
Non. Enfin, moi, j'en ai pas trop connu. Hein. Moi, quand je suis arrivée, toutes les filles, là, Christine, Pia, tout ça, qu'est-ce que c'est que cette fille, d'où elle sort? Elle a 10 chansons d'Aragon, comment, et Ferry, comment ça se fait? Bon, mais ça n'a pas duré. Il y avait Monique Morelli aussi. Et alors, bon, ça n'a pas duré. Bon, viens boire un coup. On va boire un coup, puis c'est fini. Ouais. On s'estimait, on s'aimait beaucoup et chacune apportait quelque chose. Je veux dire, il n'y en a plus beaucoup d'interprètes maintenant. Il y a beaucoup qui font leurs propres chansons et c'est autre chose.
Ouais. Alors, on a parlé de vous en tant que chanteuse et interprète. On n'a pas évoqué votre engagement de citoyenne que vous ne pouvez nier à l'écoute des nombreux textes que vous avez repris, hein, comme Nuit et brouillard de Jean Ferrat, par exemple.
Oui.
Il est fortement lié aux rencontres que vous avez pu faire. On n'est pas la petite fille du fondateur de la Ligue italienne des droits de l'homme pour rien, quand même.
Ah, ben voilà. Non, mais j'ai toujours été élevée, le point levé, moi. Hein. Ouais. Ma première manif, c'est à 4 ans que ma mère m'a emmenée en 36 pour le contre-Franco. Alors. C'est tout, que je pouvais pas. Donc, j'ai toujours. Et puis après, j'ai fait des trucs sur la commune de Paris avec Mouloudji. On a fait des tournées formidables. J'ai toujours chanté les chansons, les poèmes engagés aussi, parce que chez les poètes, il y en a beaucoup qui... Mais en général, les poètes classiques, enfin Aragon, etc., ils ont un contournement qui est formidable. Parce que c'est pas en arrivant au premier degré, en chantant « On fait la révolution demain matin » que, bon, ça c'est pour les manifs, disons. Et moi j'adore les manifs, j'ai jamais arrêté d'en faire. Si maintenant je suis fatiguée, j'y vais moins. Mais bon, on chante les trucs tous ensemble en manif et tout ça, mais et puis moi ce que j'ai choisi c'était les chansons qui étaient écrites, disons, voilà, littérairement écrites. Mmh. Voilà. Et donc, mes auteurs, c'est Anne Sylvestre qui m'écrit des choses. Alain Leprest, il m'en a fait, je les ai compté l'autre jour, il m'a fait 42 chansons. Alors bon. J'ai toujours bien choisi. Je suis très fière de moi. Ouais. J'ai toujours choisi des Maurice Fanon. Je me suis pas trompée. J'ai jamais chanté une seule chanson où j'avais un doute. Mmh. Ou que c'était pas forcément très bien.
Ouais.
Ou alors, si j'avais un producteur, même j'ai eu Barclay, j'étais chez Barclay pas longtemps, mais il m'a fait un 45 tours. Il m'aimait beaucoup, mais il aurait voulu que je chante des choses qui marcheraient.
Mmh. Ouais, ouais.
Voilà.
Alors, on a l'impression que le mot engagement chez les artistes est presque un gros mot aujourd'hui. Certains lui préfèrent réveilleur de conscience. Moi, je rajouterais le mot résistance. Vous sentez résistance contre un monde que l'on pourrait qualifier de monde du fric et des cons?
Ben, ça a toujours été le fric, hein, depuis très très longtemps, de toute façon, ça l'est toujours, et de pire en pire. Je comprends qu'on soit anarchiste complètement, mais qu'on s'en foute, mais moi je suis toujours, même malgré mon âge, je veux dire, je suis désespérée un peu de laisser les générations qui suivent dans l'état dans lequel on va les laisser, quoi. Mmh. Pas seulement les chanteurs, disons.
Mmh.
Mais les chanteurs, moi, on est plusieurs, là, enfin, encore en vie, là, de ma génération, mais c'est désastreux. Moi, j'arrête pas de recevoir des textes de jeunes gens, jeunes filles. Je vais les voir dans les petits cabarets qui restent à Paris. Il n'y en a presque pas. Et leur vie, mais c'est leur vie. Ils devront se battre comme nous, on s'est battus. Mais dans un certain sens, moi, tel que je suis, je me suis battue contre des choses, quoi. L'Algérie, après la guerre, j'ai connu la guerre, je veux dire, c'est quelque chose, hein. Après, on a eu le colonialisme. Bon, maintenant, on se bat, et c'est plus lointain, je ne sais pas comment expliquer, quoi. C'est moins précis.
Mmh. Mais il faut se battre quand même.
Oui.
Et il y a encore des causes pour lesquelles il faut se battre.
Ah oui. Ben alors, dis-moi.
contre le tout financier, la mise à casse des droits acquis, notamment
voilà.
Après la Deuxième Guerre mondiale, enfin, il y a tellement de choses. Oui, enfin, il faut toujours se battre. Hein. Le mot résistance, on est en pleine résistance là. Hein.
Oui, mais résistance, c'est qu'on résiste. Mais moi, j'aimerais bien qu'on fasse plus, quoi. Qu'on avance.
Ouais.
Parce que si on fait que résister, on résiste, heureusement. Hein. Mmh. J'aimerais bien qu'on attaque.
Alors, on résiste et on se bat. Alors voilà.
Voilà, attaquons.
Alors, tout à l'heure, on parlait de rencontres dont on n'a pas parlé encore. Enfin, vous en avez parlé ici, mais rapidement, c'est celle avec l'homme de l'Estre, de l'Estre et fils de Bourges, comme il aimait à se présenter. Il s'agit bien sûr du regretté Alain Leprest.
Oui.
Parlez-nous un petit peu du personnage et de ce qui vous a apporté tant artistiquement qu'humainement.
Eh bien, c'est simple. C'est un. Il m'a apporté énormément. Parce que c'est à une époque, dans les années 90, juste, oui, bon, il n'y a pas si longtemps, qu'il venait en entraide, là. Et je ne le connaissais pas, je savais qu'il y avait un chanteur du Tonnerre qui était passé à Bourges, et voilà. Et il s'est précipité sur moi, et il m'a dit, il était tellement beau, il m'a dit tout simplement, je t'écris deux chansons. Et moi, je regarde, je n'avais jamais entendu ces chansons, je lui dis, non, tu m'en écris 12. Voilà. Alors on est parti chez Gérard Pierron, et pendant 4 jours, il m'a écrit, mes 12 premières chansons, et puis après il m'en a réécrit 12 et tout ça. Mais on s'entendait si bien, je ne sais pas comment expliquer, on se comprend, il y a des gens avec, on n'a pas besoin de parler. Hein. Avec Alain, j'avais pas besoin de parler. Il m'a écrit une chanson sur la mort de ma mère. Je lui ai dit, oh oui, maman est morte, oui. Voilà, il m'écrit une chanson splendide. Et tout était comme ça avec lui. Il n'y avait pas besoin de lui raconter ceci et cela, j'ai fait ça. Il le savait. C'était un homme qui avait... pas seulement des petits défauts, sans doute des gros défauts. Moi, je le connais que comme un ami très profond, très fort, et qui, voilà, qui m'a écrit tout ce qu'il m'a relancé dans la vie. C'est vraiment ça, hein, parce que Fanon était mort. Je veux dire, il y a De Broncard, tous ces grands auteurs. Voilà, et j'ai rencontré Alain, et du coup, je suis allée dans les petits cabarets à Ivry, et puis j'ai rencontré tous les autres. Bernard Joyet, tout ça, et puis ils m'ont tous écrit des chansons, et ils m'ont remis dans le ruisseau avec eux. Autrement, j'aurais pu faire, ça, d'ailleurs ça m'arrive, hein, là, je vais aller à Paris, je vais chanter que de l'Aragon un soir. Je veux dire, c'est pas ça, mais c'est dans la vie de maintenant. Je n'ai pas pris ma retraite, quoi, disons.
Ouais. Alors, Alain Leprest, on le sait, s'est donné la mort le 15 août 2011 à Entraigues, en Ardèche, oui, où habitait Jean Ferrat jusqu'à son décès le 13 mars 2010. Alors, j'imagine que vous avez un rapport particulier avec ce village, et encore plus aujourd'hui.
Oh ben parce que ces gens qui... C'est parce que j'ai fait tourner avec Ferrat, et que c'est pas... Par hasard, on avait 2 jours sans rien faire, mais à l'époque, si vous voulez, une vedette comme Jean, c'était dans les années 65-66, et ben il avait une première partie, on était 4 ou 5 à chanter, voilà, et donc on était des troupes. Maintenant, les grandes vedettes, quelquefois, ils prennent une première partie, mais pas toujours. Ce qui fait que c'est un manque terrible pour les jeunes. C'est qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller s'essayer sur des grandes scènes, ou des petites, ou de toute taille. C'est vrai. C'est... Alors à l'époque, on a débarqué à Entraigues parce que le maire, et du coup, lui, il a acheté sa maison. Et puis moi, j'en ai acheté une, et je vous parle dans ma maison d'Entraigues, là.
Alors, on parlait d'Alain Leprest, on aurait pu évoquer aussi Raymond Gary, par exemple. On retrouve leur texte, voire leur musique, hein, sur votre dernier album en date, La Promesse à Nona, paru le 18...
Oui,
ah,
ben ça, c'est, hein, Thomas Pitiot, oui.
Oui, ben, oui. Alors, on retrouve... Oui, alors je continue, puis on en parle après. Alors, oui. On retrouve quelques autres anciens comme Anne Sylvestre, Bernard Joyet, Gilbert Lafaye, Yvan Dautun, oui, Jean-Michel Piton, Michel Bernard, ou Michel Buller, beaucoup de Michel, mais également très beau prénom. Mais également, oui, la relève, Lire le Mandeléo, Thomas Pitiot, dont la chanson donne le nom à l'album. Alors pourquoi avoir choisi le titre de la chanson Du Francilia? Parce que le morceau débute par, je cite, Tu es le fruit de ma victoire, prénom qui vous touche plus particulièrement?
Ben parce que moi j'ai jamais voulu faire d'enfant. Et donc, voilà, j'en ai adopté une parce que je suis partie au Chili, le Secours Populaire m'a envoyé là-bas pour apporter de l'argent. Les enfants dans les bidonvilles, ils mangeaient 5 fois par semaine. Alors bon, je suis partie là-bas bourrée de pognon pour les gosses et des photos pour les disparus, les familles d'exilés. Oh, c'était un voyage épouvantable. C'était en 76, voilà. Et du coup, j'ai dit à mon mari, bah écoute, on va, c'est le moment, on s'était dit qu'on adopterait un enfant quand on serait grand, c'est le moment. Alors, on a fait les choses tout à fait légalement, j'ai reçu une petite photo, Et puis j'ai reçu une petite mapuche qui est maintenant à 34 ans. C'est une petite indienne qui n'était pas commode, hein, je peux vous dire. Bon, alors on est bien tombé d'ailleurs. Et là, elle m'a fait une petite fille. Elle m'a fait, vous voyez comment je suis. Elle a fait une petite fille qui s'appelle Lola, qui a 2 ans. On a fêté ses 2 ans la semaine dernière, qui lève le poing comme moi. Et voilà, et qui est magnifique, et qui est à moitié chilienne, à moitié française, puisque le mari de ma fille, il est de Montreuil. Donc,
d'accord.
Voilà.
Alors, on parlait de Thomas Pithiot et dire Le Mans de Léo. Comment faites-vous pour choisir vos chansons? Les textes ont plus d'importance que les artistes?
Ah ben oui. Bien sûr. Non, mais là, Thomas, il a vu le bonheur que j'ai eu quand j'ai eu ma petite fille, quoi. Et comme je lui disais, avant qu'elle naisse, tiens, tu sais, je lui ai chanté International, elle est dans le ventre de ma fille Victoire, bon, il la connaît bien. Et donc, je lui ai chanté International, ça avait l'air de lui plaire. Alors, il se moquait un peu de moi, mais il a fait cette chanson ravissante. La promesse que les desserts pour les enfants dureront au moins 2000 ans, quoi. Ouais. Et qu'elle ne restera pas bouche bée. C'est une jolie chanson. Mmh. Ouais, j'adore. Ouais. J'adore Thomas. Mais les hurlements de Léo, ça s'est fait différemment. Et puis, ils m'ont écrit les chansons parce qu'ils m'ont entendu chanter. Et puis, ils m'ont demandé si je voulais venir chanter avec eux. Bon, ma foi, j'ai chanté une chanson de Gilbert Lafeuille, La Voix des Sans-Voix. C'est une chanson qui leur plaisait beaucoup. Et puis après, ben, j'ai dit, comme ils jouaient très bien de la musique, j'ai dit, ben, écoutez, écrivez-moi. Puis je suis allée à Bordeaux, et puis j'ai enregistré deux chansons formidables.
Ouais.
Voilà.
Alors, à part Thomas Pithiot et Hurlements de Léo, quel regard portez-vous sur la nouvelle génération de chanteurs et de chanteuses dont vous vous sentez proche? Quels artistes vous plaisent et pourraient vous inspirer pour vos prochaines chansons?
Ben, c'est ça qui est difficile. C'est que ce que j'écoute souvent, j'écoute France Inter, etc., normalement, mais moi j'ai un problème, c'est que les paroles ont un peu disparu, quoi. Voilà. Il y en a plus. Il y a les mots ont disparu. C'est derrière des très jolies musiques quelquefois, mais enfin, il y a des musiques qui me choquent parce que c'est en répétition sans arrêt la même chose. Mais bon, je suis trop vieille, sans doute. Mais moi, en tant que vieille, je dis que quand même, il faut que les jeunes qui adorent la musique et tout ça, ils se rendent compte que le sens des mots a énormément d'importance. Et pour les gens qui... On ne fait pas que danser. Quand on danse sur certaines danses, on danse bien. Mais parce qu'on les connaît, on connaît aussi les paroles. Quelquefois, bon, on danse n'importe quoi, je veux dire. Moi, j'adore, j'aime beaucoup danser. Je ne sais pas danser, mais bon, même maintenant, j'aime bien quoi la musique. Mais je voudrais bien que les jeunes, et quelquefois ils se contentent de pas grand chose, quoi. Alors, par contre, si vous me dites, j'ai pas beaucoup de mémoire, mais j'en connais, mais c'est pas des jeunes, quoi. C'est des...
Oui, moi aussi.
Voilà.
Parce que je pense que,
il y a Jean-Michel Piton, qui est c'est un splendide chanteur, auteur.
Loïc L'Antoine.
Ah ben, Loïc.
Mais c'est vrai qu'il a pas 25 ans, c'est vrai.
Non, mais Loïc, en plus, c'est un génie, lui, alors.
Oui, voilà, par exemple.
Dès que je chante, il monte pour chanter avec moi.
Voilà.
S'il se met à chanter Sacré Coco, malgré l'interdiction de je sais pas qui, non, il faut pas y aller, ben j'y vais. Puis,
voilà.
Et on est content. Voilà.
C'est vrai qu'il est... Moi, contrairement à vous, je pense qu'il existe encore beaucoup d'artistes pour qui les mots sont importants, mais qui ne passent même plus sur France Inter, et qui passent uniquement en cadre de radio, comme nous. Hein. C'est peut-être pour ça aussi.
Hein. C'est sûr. S'il y avait aussi autant de cabarets, d'endroits où chanter, parce que maintenant il y a les chantapart. Moi, je vais partout. Hein, je veux dire, je vais au chapeau, je vais à n'importe quoi. C'est ça qui me plaît. On m'engueule, tu devrais pas, ce que tu as fait, etc. Tu devrais pas. Mais moi, j'y vais. Je veux être en contact avec la vie de maintenant. Je vis pas pour vivre vieille. Voilà.
Eh bien, merci Francesca Solvi d'avoir accepté l'invitation de Tropic FM.
Ben, je vous souhaite le meilleur.
Ben, pareil. Alors, rappelons que vous avez sorti donc le 18 février 2012 La Promesse à Nona. On peut se procurer où, ainsi que toute votre discographie qui est immense.
Ah ben on peut alors dans les FNAC normalement. Mmh. Bon, normalement on trouve. Et puis j'ai sorti un, comment on appelle ça, un coffret avec 100 chansons des années où on faisait des vinyles.
D'accord. Voilà. Les 33 tours.
Les 33 tours, les 45 tours, les 25 centimètres, on en a vu des choses.
Les 78 tours aussi.
Non.
Non, c'était non, trop rapide.
Non,
je l'ai acheté. Bon. Oui. Alors, on vous retrouve sur Internet via votre site www.francescasolville.com. Et puis le plus important pour nous, bah, vous souvenez.
Ah non, ah oui, bah, c'est peut-être mon agent qu'on trouve. Oui, c'est
oui,
ça.
Oui, enfin bon, c'est, oui. C'est votre site.
Bon, très
oui,
bien.
Voilà. Et oui. Puis plus important pour nous, vous serez en concert à la MJC du Vieux Lyon les vendredis 15 et samedi 16 mars 2013.
Bah oui, dans 3 jours.
Voilà.
Oui.
Bon, voilà. Bah, c'est demain déjà.
Et oui, c'est vrai, c'est demain.
Oui, c'est demain, oui. Oui.
Bon.
Eh ben, allez, Francesca, bonne continuation.
Merci.
Bon concert ce week-end et à bientôt sur Tropic FM.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.